Les pieds sur terre, quartier d'été, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
L'histoire que vous allez entendre se passe à côté de Trappes, dans les Yvelines, à 35 km de Paris. Trappes, une ville née dans les années 70 pour loger les ouvriers de l'industrie automobile, bien souvent immigrés. Ici, les habitants vivent dans un cadre agréable, verdoyant, les loisirs sont nombreux et la mairie, longtemps communiste, investit des millions dans la rénovation urbaine. Trappes, un vivier de talents que tout le monde connaît et s'arrache, Jamel Debbouze, Omar Sy, Sofia Aram, Nicolas Anelka. Puis, insidieusement, la ville qui brillait jusque-là par sa diversité voit s'implanter de nouveaux réseaux. Des fondamentalistes musulmans dont les idées commencent à se diffuser. Petit à petit, dans les collèges et lycées de Trappes, quelques rares élèves distribuent des cassettes sous le manteau, refusent de participer aux cours de philo quand il est question de Darwin, se font prosélytes. Début 2010, les réseaux ont leur lieu attitré comme le fast-food Chicken Planet. Mais ceci, précisons-le, concerne une toute petite minorité de trappistes, mais qui fait parler d'elle. La famille qui est au centre de notre récit, c'est un détail important, n'habite pas au centre de Trappes, même si les enfants y sont scolarisés. Daniel et Nathalie, avec leurs deux enfants, un garçon et une fille, sont installés à 10 minutes de là, dans une de ces maisons perdues entre ville et campagne, mal reliées, mais au calme, au vert. Enfin, c'est ce qu'ils croient. Ma fille sous influence, c'est le premier épisode d'une série proposée par Rémi Dibowski-Doit et leur marchand, réalisé par Emmanuel Geoffroy. Et c'est toute cette semaine dans Les Pieds sur Terre, quartier d'été.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Réveillez-vous au lieu de discuter de choses qui n'ont pas d'intérêt. Faites quelque chose ! Faites quelque chose !
C'était un cas particulier, Emma.
Tu vois, c'est ça que je comprends pas. C'est-à-dire qu'elles se sont fait avoir par ça, mais elles y restent quand même.
Finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait une espèce de toile d'araignée qui convergeait sur ma fille.
Entre 60 et 80 habitants de Trappes ont cherché à rejoindre Daesh.
Elle avait un visage tellement fermé.
Nous sommes en 2015. Avant les attentats du 13
novembre. Et puis après, histoire terminée, on passe à autre chose, on reprend notre vie normale. Ça, c'est ce que je croyais.
Salut.
Là, je vais le virer parce qu'il s'est roulé dans une bouse, je te dis pas l'odeur. Rentrez.
Ça va?
Stop. Bah, où, ça. J'arrive tout de suite.
Comment ça s'est passé Noël là?
Alors, un peu plus serein que les années précédentes, depuis qu'on est englué dans cette histoire. Et disons que je me suis un peu assagi, du coup ça passe un peu mieux, j'arrondis un peu les ongles.
L'histoire dans laquelle s'est engluée la famille de Nathalie, je vais vous la raconter dans cette série.
Je ne vais pas chercher à entamer des discussions compliquées. De toute façon, personne n'en parle. Donc, comme ça, c'est totalement sujet tabou.
Et je veux dire, c'est compliqué. Donc, c'est pour
ça... La conversation que vous entendez a eu lieu à Noël dernier. Deux parents, Nathalie et Daniel, essaient de se mettre d'accord sur la manière de recevoir le nouveau petit ami de leur fille et d'aborder avec eux la question de la religion.
Ça bloque, forcément. Le Coran bloque toute...
Relation vers les autres qui ne sont pas musulmans.
Voilà.
Moi, j'ai l'impression qu'avec ma fille, ça ne se passe pas si mal que ça. J'ai des bons rapports, on rigole, on a des bons moments ensemble. Mais c'est vrai qu'on n'aborde pas du tout ce sujet. Quoi.
Pas parler de choses qui fâchent, quoi.
Voilà.
Là où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est que son petit copain qui est musulman, j'ai dit, va falloir vous préparer psychologiquement, on va faire un vrai repas halal pour accueillir son copain à la maison, histoire de faire un pas en avant.
Je pense que si j'ai son petit copain musulman, peut-être je discuterai justement de choses théologiques avec lui.
Ah non, mais lui, il n'y est pour rien, le pauvre garçon. Lui, il n'a pas été responsable de l'embrièdement de notre fille.
J'essaierai de faire du prosélytisme pour l'athéisme.
Non, mais attends. Tu t'éloignes du sujet.
Ça, c'est autre chose.
Le propos, c'est est-ce que tu es prêt à accueillir le petit copain d'Emma ?
Mais je ne suis pas prêt à manger halal. J'ai déjà du mal à manger de la viande, mais alors je suis plutôt végétarien, mais alors halal, c'est encore pire pour
moi. Mais tu n'es pas obligé de manger, mais on va faire un repas halal pour que lui ait l'impression qu'on lui souhaite la bienvenue. Point, un petit geste.
On peut faire un repas végétarien à ce moment-là.
Donc, tant que ça sera comme ça, elle ne dévoilera pas sa vie telle qu'elle la conçoit avec sa religion. Voilà.
Mais bon, je vais essayer de...
Donc c'est pas un reproche que je te fais, mais c'est là où on bloque.
J'ai effectivement du mal à...
Ça bloque. En plus, elle a eu un coup de foudre monumental. Moi, je trouve ça absolument génial. Presque, elle a vécu de recroire en l'amour et machin, après tout ce qu'elle a subi.
D'accord, ok, mais...
qu'elle aurait pu...
La religion, ça n'a rien à voir avec le fait de quelqu'un peut être super humaniste et sympa et
cool. Comment est-ce que je dis, c'est... Elle a eu son premier petit copain, c'était un recruteur, c'est un mec qui l'a violé à tous les sens du terme. Qu'elle retombe amoureuse, c'est déjà absolument inespéré. Donc c'est le moment d'ouvrir la porte. Voilà, c'est ça que je suis en train de te dire.
Non, mais la personne est peut-être très très cool, mais il n'y a pas de problème. Moi, je suis ouvert à ça.
Non, tu n'es pas ouvert, puisque je te pose un truc pragmatique. Est-ce que tu es d'accord pour dire... Voilà, il va venir manger, on va machiner. Mais c'est mort, complètement mort, déjà qu'elle essaye de tout planquer, tout, tu vois. Si tu restes sur tes positions, on n'y arrivera jamais, quoi, tu vois. T'as le droit de penser tout ce que tu veux. Ce que je te dis, c'est pragmatiquement, je te pose une question et tu tournes autour du pot, genre jusqu'au végétarisme. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ton végétarisme, d'accord? On s'en fout de toi. Est-ce que tu peux faire un pas en avant pour qu'elle débloque un peu, elle se décoince un peu. T'imagines même pas jusqu'où elle va. Tu vois. Dès que je commence à lui parler d'un petit truc, elle m'envoie chier comme si j'étais l'intrusion totale, tu vois. Et si tu le fais pas avec moi, elle va croire que c'est moi qui suis intrusive. Si tu fais pas avec moi, tu comprends ce que je veux dire? C'est un peu pénible, hein? Nous, on est originaire de province, fondamentalement athée. On est des gens qui avons voté à gauche toute notre vie. On est musiciens tous les deux, intermittents du spectacle. On est contents de notre boulot, la vie est belle. Et puis, on décrit la famille lambda moyenne. Voilà.
Donc, je me suis mis à faire de la musique en autodidacte. Je me considère comme un artiste. Et c'est une vocation. Donc,
lui, c'est Daniel. Ouvert, laïque, post-68-art assumé.
Quand j'étais jeune, j'étais vraiment dans les mouvements hippie, flower power, etc.
Il porte des cheveux longs, il est guitariste. Il accompagne des groupes de rock et il joue aussi du jazz.
C'était un mouvement pacifique.
Elle, Nathalie, est chanteuse et donne des cours de technique vocale. Elle gagne sa vie très modestement. Elle dit que c'est un choix. Là, elle chauffe sa voix pour le concert qu'elle s'apprête à donner, dans une petite salle municipale, pas très loin de chez elle. Il y a aussi un grand garçon, Hugo, qui a 18 ans. Il est au lycée à Trappes, la ville d'à côté.
Dis donc, feignasse.
Non, mais pour aller à la banque,
tu pouvais pas y retourner.
Cette famille, pas mieux qu'une autre, mais qui n'a rien fait de mal non plus,
donc c'est pour la peine de retourner,
vit dans une grande maison trop chère à entretenir et à chauffer.
Je pense qu'il faut racheter du bois.
L'hiver, on garde volontiers son écharpe et son bonnet à l'intérieur.
Non seulement il ne fait pas très chaud, mais même carrément, je dirais même plus, on se pèle.
Mais c'est joli, bucolique. On est au milieu des champs, à 10 minutes de Trappes en voiture. La ville à la campagne, comme disent les panneaux des programmes de construction neufs qui poussent aux alentours.
Allez, nous on va aller faire les courses. Alors.
L'ambiance, c'est un peu la maison bleue. Rien n'est fermé à clé. Tout le monde est le bienvenu et chacun vit sa vie. Même la conversion d'Emma à l'islam, à l'âge de 14 ans, n'a pas posé de problème particulier à Nathalie. Tout ça se passe donc à peu près bien. Enfin, c'est ce que pensent Nathalie et son mari, jusqu'à ce jour de 2014.
Je vais vous montrer la salle de musique où j'ai reçu le premier coup de fil où ça tout a commencé.
Alors je me demande encore comment ça se fait que je peux rentrer encore dans cette salle de musique. Alors. Voilà. Donc là, je travaille beaucoup là. Et j'étais au piano quand j'ai reçu le coup de fil de Dunia Buzar. Elle me dit, vous ne savez pas qui je suis? Alors, je lui dis, non, pas du tout. À l'époque, je ne regardais pas du tout la télé. Ça a beaucoup changé. Elle me dit, je suis la directrice du CPDSI. Regardez sur Internet et vous me rappelez tout de suite. Ok, donc j'étais un petit peu sèche au téléphone. Et puis, je regarde sur Internet. J'étais pas du tout branchée là-dessus. Et en fait, je vois centre des dérives sectaires islamiques. Et du coup, ben, panique à bord, je la rappelle, elle me dit, bon, il y a le feu aux poudres, votre fille, elle est prévue pour un enlèvement le 18 octobre, il faut faire vite, on était le 30 septembre, donc là j'ai les poils droits sur la tête, elle me dit, il faut que je vous rencontre avec votre mari, pour l'instant sans votre fille, et il faut qu'on se voit tout de suite, tout de suite. Donc on se donne rendez-vous le lendemain ou le surlendemain. Donc je raccroche. Donc du coup, je vais chercher mon mari et je lui dis, là, il y a le feu aux poudres, il faut vraiment qu'on aille voir cette femme. C'est la panique, elle va être enlevée, tu te rends compte, c'est la panique. Bref, je me rappelle, mon mari, il était bouche bée, un peu genre l'air bête, comme ça, gogol, genre les yeux grand ouverts, la bouche ouverte, ne sachant pas quoi dire du tout. Et du coup, on décide de s'organiser pour partir tout de suite au rendez-vous avec Dunia Buzar, donc, qui nous donne les informations au fur et à mesure. C'est-à-dire, je vous donnerai l'adresse au dernier moment, parce que si jamais on est suivi, c'est un truc complètement ubuesque. On est sidéré, on n'arrive pas à réfléchir, on est dans l'impulsion du moment. Ma fille est prévue pour un enlèvement. Elle est en danger, il faut qu'on fasse quelque chose tout de suite, et on y va, il n'y a pas à tergiverser, quoi.
En 2014, Emma, la fille de Nathalie et Daniel, a 15 ans. Jusque-là, c'est une petite fille, puis une jeune fille très gaie, qui a de bonnes notes à l'école, mais pas beaucoup de copines. Enfin, de moins en moins de copines, depuis la troisième qu'elle s'est convertie à l'islam. Sans doute s'est-elle convertie avec des copines du collège. Les parents ne savent pas exactement. Ce qu'on sait en tout cas, c'est qu'elle aime s'occuper d'animaux. Deux poneys, un chat et deux chiens ont été recueillis à la maison. C'est une jeune fille sensible, qui peut même fondre en larmes quand elle voit un SDF. Elle est révoltée par toute cette injustice.
Je ne suis pas prête de l'oublier. C'était un cas particulier, Emma. En fait, on était déjà en action sur le terrain. Je ne sais plus si on était déjà mandaté par le ministre ou pas, mais bref, on avait déjà quelques centaines de gamins. Et nos premiers gamins qui étaient en train de s'en sortir.
Elle, c'est Dunia Buzar, une anthropologue du fait religieux et éducatrice spécialisée. Il y a 4 ans, elle a fondé le CPDSI, le Centre des dérives sectaires liées à l'islam, qui prend en charge des jeunes radicalisés avec des éducateurs et des psychologues.
Et quand un jeune s'en sort, le grand public demande toujours « Comment vous savez que c'est un vrai repenti ? Comment vous savez qu'il s'en sort ?» Bah, vous savez qu'il s'en sort parce qu'immédiatement, il sauve d'autres jeunes. Il vous donne des noms, il vous donne des adresses, il vous donne des téléphones. Ils deviennent des renseignements généraux, les jeunes qui s'en sortent. Parce que pour se déculpabiliser, ils ont besoin de sauver des vies, tous, les uns après les autres.
C'est au cours d'une séance de déradicalisation que Dunia Buzar entend le nom d'Emma, prononcé par une jeune fille qui craque soudain.
Elle part en larmes et elle me dit... Oh là là, mais je ne vais jamais vivre avec ça. En fait, il y a une petite, une comme moi, une sœur qui est prévue, qui va bientôt partir. C'est dans quelques jours. Il faut que tu fasses quelque chose. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu as ? Elle me dit, bah, j'ai son Facebook. J'ai dit, attends, son Facebook, je ne peux pas appeler la police, il faut plus. Alors, je lui dis, essaye de la faire parler. Rappelle-toi, elle est dans quelle ville ? Tu peux avoir son nom de famille ? Comment tu peux faire ? Et puis finalement, une autre fille qui était en séance avait cette relation avec cette sœur-là. Et en rebouclant toutes leurs informations, elles arrivent à me dégager un nom de famille et une ville. Donc moi, le soir, je dis à l'équipe, je vais faire quelque chose que j'ai jamais fait. Je vais être intrusive. Mais je ne peux pas dormir si je sais que cette gamine est prévue dans un convoi. À cette époque-là, ils arrivaient avec des Volvo à la sortie des collèges. Hein. C'était le tout début, c'était 2014. Hein. Il y avait, je sais pas, 3 tentatives de départ par nuit. Personne ne peut se rappeler de ce qu'on a vécu et peut nous croire. Ça paraît surréaliste à l'heure actuelle. Mais c'était vraiment la réalité. Donc j'appelle et je bégaye un peu et je dis, écoutez, je sais pas comment vous dire, madame, je suis confuse, mais voilà, je suis Dounia Bouzard.
Sa méthode de travail et ses résultats sont aujourd'hui controversés. Pour les uns, Dounia Bouzard a bel et bien empêché des centaines de départs pour la Syrie. Pour d'autres, le succès revendiqué par le CPDSI est bien difficile à évaluer. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à l'époque, les pouvoirs publics sont dépassés par la popularité des thèses djihadistes auprès des jeunes. Et comme Dounia Bouzard est alors l'une des seules à saisir l'ampleur du phénomène et à proposer une réponse concrète, elle devient une référence en matière de déradicalisation. Elle est partout, sur tous les fronts et dans tous les médias.
Donc du coup, on arrive à Montparnasse, on se retrouve donc dans un bar. Donc il y avait Dounia Bouzard en personne, il y avait sa fille Laura, et il y avait un jeune mec psychologue qui faisait partie du centre. Et donc il commence à nous parler en disant « il faut que vous arriviez à comprendre la situation, ne pensez pas qu'elle vous mente ou qu'elle vous fait un plan sans vous en parler, elle est sous emprise mentale et elle peut pas vous dire ce qu'elle vit et ce qu'elle fait. On a dû lui choisir un mari pour qu'elle soit sur le départ, il y a un recruteur qui a dû s'occuper d'elle, on a dû lui choisir un père de substitution puisque votre mari n'est pas musulman, mais des phrases mais complètement folles quoi. » Et là, mon mari, je le vois, la bouche bée toujours, les larmes qui montent aux yeux, totalement détruit. Il était complètement détruit, incapable de dire un mot. Il était tétanisé, enfin sidéré. Et du coup, je dis, bon, qu'est-ce qu'on fait? Elle me dit, ben, faut tout de suite vous l'amener. Il faut qu'on puisse organiser un rendez-vous sans qu'elle sache que la séance est pour elle, une séance de désembrigadement. Et nous voilà partis à Paris avec ma fille, qui commence dans la voiture bizarrement à me montrer une photo de son petit copain, c'est-à-dire son premier petit copain. Elle avait à peine 15 ans à l'époque, elle avait 15 ans. Elle me montre la photo de ce mec et elle me dit « comment tu le trouves ? C'est mon petit copain, il est trop gentil, blablabli », elle commence comme ça. Alors j'étais très très étonnée qu'elle me branche sur ce mec. Ok, donc je dis, bah écoute, il est mignon, pourquoi pas, voilà, comment il s'appelle, Brandon, oui, il est d'origine du Congo, je dis, écoute, il a des beaux yeux, d'accord, je rentre dans son jeu, ok, pas de souci, et puis pourquoi pas, et puis c'est tout, je dis, mais il est quand même un peu plus grand que toi, Emma, quand même, il a l'air plus âgé, oui, il a 3 ans de plus qu'elle, il était majeur, lui, en tout cas, il avait 19 ans, quelque chose comme ça, et on arrive au rendez-vous vers la rue de Dunkerque, il faisait super froid et c'était tout début octobre. Et là, on arrive dans une salle, un grand carré, plein de monde, et on arrive en plein milieu d'un témoignage. C'est-à-dire qu'au moment où on arrive, les discussions étaient déjà entamées. Et donc quand vient le tour de ce jeune mec qui raconte l'histoire de sa sœur, là on commence tous à pleurer tous les trois, et ma fille est très déstabilisée. Elle se tourne vers moi, puis elle me dit, mais maman, mais qu'est-ce qu'on fout là? Ça n'a rien à voir avec nous. C'est quoi tout ça? Et je lui dis, écoute, Emma, je n'en sais rien, je ne sais pas. Attendons, je peux pas te dire. Et à un moment donné, Dounia Bouzard arrête les débats. Elle fait signe à Emma, qui était juste en face d'elle. Et elle dit, ben Emma, je ne te cache pas qu'aujourd'hui, cette réunion, elle est pour toi. On t'a fait venir aujourd'hui parce qu'on pense que tu es en danger. Et là, elle lui balance tout le truc et j'ai les poils droits sur la tête. Tu es vraiment en danger et il n'y a pas que toi, il y a d'autres filles. Il faut absolument que tu nous aides. Il faut que tu nous dises exactement ce qui se passe. On pense que ton petit copain est un recruteur et on pense qu'il veut absolument te faire partir en Turquie et ensuite en Syrie. Et est-ce que tu es au courant de quelque chose, etc. Et là, ma fille nous tombe dans les bras, excuse-moi, pardonne-moi papa, pardonne-moi maman, je voulais pas vous faire de la peine, je voulais pas vous faire peur, elle était toute défaite. Il faut quand même imaginer que c'est une gamine de 15 ans, très fleur bleue, très réservée. Elle s'est écroulée complètement en larmes, quoi. C'était vraiment impressionnant de la voir. Ça a duré une bonne demi-heure jusqu'à ce que nous, on sorte avec son père et que Dounia s'adresse à elle toute seule. Elle n'a pas parlé devant nous. Elle a parlé juste à Dounia.
Elle avait un visage tellement fermé. C'était pire qu'une porte de prison. Il n'y avait aucune visibilité de son adhésion à l'idéologie, mais par contre, elle ne nous voyait même pas, on n'existait pas. On était le mal incarné, une espèce de haine sourde, de froideur forte, profonde. Tout ce qui ne fait pas partie de leur groupe radical est redéfini comme l'ennemi. Et nous, qui étions de référence musulmane, on était en plus l'ennemi de l'intérieur, donc qui suscite encore plus de haine. Et à chaque fois, il faut se rappeler que c'est une petite fille, que c'est un individu dessous, qu'il ne faut pas se fier à son visage.
Et vous avez eu confirmation à un moment donné ou à un autre des services de renseignement que Emma était bien prévue pour un départ ?
J'ai eu confirmation 6 mois plus tard. À l'époque, déjà, les renseignements n'étaient pas du tout aussi vifs que depuis. Ensuite, j'ai quand même eu accès à des enregistrements de discussions sur Internet et à des copies d'écran qui m'ont quand même confirmé l'élan d'Emma, et bien qu'elle l'ait toujours nié. Mais j'ai envie de vous dire, la moitié des filles qui commençaient à s'intéresser aux modalités de départ le nient. Et je ne crois pas que ce soit un mensonge. Je pense qu'elles ont besoin d'effacer ça de leur histoire. C'est-à-dire, à un moment de leur histoire, c'est dur à assumer.
Pour les mêmes faits, aujourd'hui, Emma serait arrêtée et jugée pour participation à une entreprise terroriste. J'ai demandé à Dounia ce qui exactement, dans les mots et les actes d'Emma, tomberait maintenant sous le coup de la loi.
À partir du Bataclan, les jeunes filles qui ont fait exactement les mêmes actes, les mêmes conversations, les mêmes mots, avec les mêmes groupes, sont condamnées pour participation à une entreprise terroriste. Il y a la validation du complot contre les musulmans de la part de la France. Il y a clairement le fait que pour vivre son islam, pour être respecté et pour pouvoir avoir un monde meilleur, c'est forcément au Cham qu'il faut aller. Et le dernier étage où vraiment là, vous savez que c'est une adhésion au djihad, entre guillemets, hein, parce que c'est pas ça le djihad, c'est clairement la question des dommages collatéraux. C'est quand ils finissent par dire que, bah oui, il y a des morts en France par les attentats, mais que les victimes des attentats, finalement, quelque part, bah, c'est un peu comme quand on envoie des drones là-bas sur les civils. Donc, dommages collatéraux, c'est un mot qui revient, où là, vous savez que ça devient à un niveau où il peut basculer dans la violence.
Et ça, Emma l'a utilisé.
Elle discutait avec des gens sur ce registre-là, à la fin, oui.
En partant du CPDSI, on a reçu quelques consignes. Travaillez sur le lien, et mettez des photos de l'enfance avec le vieux chien, avec son frère tout petit, avec sa grand-mère, etc. Blabla. Et puis, coupez Internet, coupez le téléphone, plus de contact, et surveillez bien, en tout cas au minimum jusqu'au 18 octobre. On ne sait pas jusqu'où son adresse IP a été repérée ou pas, est-ce qu'ils vont venir la chercher ou pas. On est parti du CPDSI en se disant... Il suffit qu'on s'organise pour la surveiller jusqu'à cette date d'enlèvement. Et puis après, ben, histoire terminée, on passe à autre chose, on reprend notre vie normale. Ça, c'est ce que je croyais. Stinging clear.
C'était Ma fille sous influence, première saison et premier épisode, une série proposée par Rémi Dibovski-Douat et Laure Marchand, réalisée par Emmanuel Geoffroy et diffusée pour la première fois en mai 2018. Merci à Daniel, à Nathalie, à Isabelle, à Toufik, Ibrahim, Didier Lemaire, Dounia Bouzard, Sophie, Laurence Malik, Virginie, Laurent Védrine, Céline Autin et Sandrine Chaperon. C'est Midia Portis-Guérin qui s'est occupée de cette rediffusion. C'est Jeanne Delecroix, l'attachée de production, et c'est Zoé-Marie Roulier, notre stagiaire. L'intégralité de cette série Ma fille sous influence 1 et 2 est disponible, ne l'oubliez pas, en podcast. Si vous vous abonnez au podcast Ma fille sous influence, vous pourrez écouter la totalité des épisodes d'un coup, saison 1 et 2.